7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, on parle des mères et des femmes. Marie-Caroline Missire est notre invitée. Vous êtes journaliste à l'Express.fr et vous publiez avec votre consoeur un livre remarqué, Mère, libérez-vous. C'est un cri d'espoir ou un cri d'alarme ?
Un petit peu les deux, mais c'est d'abord un cri d'alarme parce que ce qu'on a remarqué et ce qu'on dit de manière assez ferme, je crois, c'est que si on a libéré les femmes, si l'émancipation des femmes est réelle, l'émancipation des mères, elle, reste à faire. Et c'est le propos central du livre.
Alors vous racontez la vie quotidienne des mères de famille en France, courir, concilier, négocier aussi avec les normes de la bonne mère dictées par la société. Vous n'accusez personne, mais vous dites en gros, on ne peut plus continuer comme ça, on va y revenir. Également avec nous dans le studio de RFI, Marianne Benet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la rédaction d'un site internet et d'un magazine qui s'appelle Parole de Maman, et où là aussi la conciliation vie professionnelle et vie de mère est ce qui fait couler le plus d'encre, non, à chaque fois.
Oui, ça reste quand même au cœur des préoccupations, voilà, des mamans. Et c'est vrai, voilà, même si on s'adresse également aux pères, on doit dire qu'on a plus de retours de lectrices et voilà, je pense que voilà, en lisant le livre, chaque femme peut retrouver voilà des situations de son quotidien et des difficultés.
Alors c'est à la fois une spécificité française et pas seulement. On retrouve aussi la situation en Afrique. Les mères françaises font pas mal d'enfants, beaucoup plus qu'en Europe, et elles travaillent aussi beaucoup. On ira aussi faire un détour du côté de Taïwan, une île démocratique de 23 millions d'habitants au large de la Chine qui revendique sa souveraineté, mais où, comme au Japon, les femmes n'ont pas vraiment envie de faire des enfants, contrairement à la France. Notre correspondant nous expliquera pourquoi. Et quant à vous, les voisins et les voisines, j'insiste sur les voisines, n'attendez pas la fin de l'émission pour témoigner ou pour questionner nos invités sur la dictature des mères parfaites. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro du standard, il vous tend les bras. Je vous livre quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Christy à Brazzaville nous dit « Moi, ma mère est tout le temps absente de la maison du fait de sa vie professionnelle et sociale, sans compter l'église. Si bien que je joue très souvent son rôle pour les tâches ménagères et la cuisine, surtout pendant les vacances. » Ça, c'est l'avantage des grandes familles. Cher à Dakar, qui est un étudiant au 21e siècle, pour atteindre le bonheur familial, il faut qu'il y ait une mère qui soit un peu un père et un père qui soit un peu une maman. Oui, ça, c'est sur le papier. Si on y arrive, tout ira bien mieux, car les parents seront très complémentaires et la mère pourra ainsi travailler en paix sans trop stresser. Ou encore Alio, également un voisin à Dakar, et il nous dit en Afrique, c'est facile de tout concilier en étant mère. La mienne avait 6 enfants, ça ne l'empêchait pas d'aller travailler dans les champs et de nous laisser seuls pendant ce temps. Bon, on va y revenir un petit peu plus en détail. Et vous nous appelez, évidemment, où que vous soyez dans le monde. La dictature de la mère parfaite existe-t-elle chez vous? Quelle pression pour tout assumer et tout concilier et tout réussir. 33 1 84 22 71 71. Marie-Caroline Missire, vous revenez sur cette spécificité hexagonale. Les mères françaises sont dans cette situation assez particulière, en tout cas au sein des pays développés. Elles travaillent beaucoup et elles font aussi pas mal d'enfants.
Exactement. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que on vit aujourd'hui dans un système où les mères françaises se retrouvent finalement confrontées à leur vie professionnelle, où il est admis que c'est plus facile pour une Française de travailler parce qu'il existe des systèmes de crèche, des systèmes de garde assez développés, ce qui n'existe pas ou peu dans les pays anglo-saxons.
Les chiffres le confirment, le taux d'emploi des mères françaises est plus important
et plus élevé. Oui. Mais le gros problème, c'est que c'est le taux de décrochage dans l'emploi des mères françaises qui s'inscrivent dans des systèmes de congés parentaux, de temps partiel, etc. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'effectivement, le taux d'emploi est plus élevé, mais que finalement les systèmes qui doivent normalement permettre aux femmes de concilier, un mot qui ne s'applique qu'aux femmes, mais passons, les pénalisent et les enferment dans des situations de placardisation, etc. C'est ce qu'on démontre bien dans notre livre. On cite plusieurs témoignages très précis.
En même temps, ça décourage pas du tout les femmes de faire des enfants. Alors quoi, elles sont masochistes ou quoi? Parce qu'en Allemagne, dans ces cas-là, on n'en fait pas.
Parce que
on a un taux de natalité l'un des plus élevés d'Europe avec l'Irlande. On est à un peu plus de 2 enfants par femme.
ça les décourage pas, parce que parallèlement à ce que je décris là, à savoir un système un peu piégeux pour les femmes, vous pouvez travailler, vous pouvez faire garder vos enfants, allez-y. Il y a cette idée qui domine que la maternité est un accomplissement de soi. C'est-à-dire qu'il y a trois injonctions contradictoires. Accomplissez-vous en étant mère. Accomplissez-vous en étant de super professionnels, accomplissez-vous en étant des mères super performantes, et puis pour le reste, débrouillez-vous.
Et très peu de, en France aussi, cette image de la famille nombreuse, hein. On n'a que 10% des enfants qui sont des enfants uniques en France. Là aussi, c'est un chiffre inédit par rapport au reste de l'Europe, où il y a beaucoup de familles où il y a un seul enfant. Et forcément, c'est plus simple.
Alors, c'est peut-être plus simple, mais ça va, je pense, avec l'injonction à la performance maternelle, c'est-à-dire que si on décide d'avoir des enfants, les enfants sont peut-être plus heureux quand ils sont au sein d'une fratrie, donc immédiatement avec la naissance du premier et le deuxième, c'est pour quand ? Combien de mères ont déjà entendu ça alors qu'elles sortent à peine les couches et...
La France est vraiment un pays où l'idéal des femmes et des hommes, d'ailleurs, c'est d'avoir au moins 2 enfants et demi.
Exactement.
Bon, ils en ont un peu moins dans la réalité, mais quand même.
Non, et puis, alors, 2 enfants, mais pour passer au cap du 3e, ça devient plus compliqué. Et c'est souvent à partir du 3e enfant qu'on note ce décrochage dans l'emploi, puisque la tentation du temps partiel est plus forte, évidemment, il faut pouvoir s'organiser, que le congé parental peut être une solution à ce moment-là, et que les femmes sont plus avancées en âge, et qu'il devient après très compliqué de rattraper le retard pris grosso modo entre 30 et 40, donc au moment des maternités.
Et en même temps, au cœur du paradoxe, ne pas avoir d'enfants, en France, c'est très mal perçu socialement, contrairement au reste de l'Europe, contrairement aux États-Unis.
Oui, parce que c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que l'idée que la femme s'accomplit à travers la maternité est sans doute plus fort chez nous, en tout cas bien ancrée dans les mentalités. Donc c'est tout ça est très paradoxal. On a à la fois cette image de la femme battante, performante, qui s'accomplit dans la vie professionnelle parce que c'est une Française et qu'elle peut tout faire, et à la fois cette image de la femme française qui s'accomplit et se réalise dans sa sphère familiale. Une image encore plus forte en temps de crise, évidemment, puisque ça peut être un échappatoire.
Un paradoxe qu'on retrouve, à mon avis, dans certaines capitales africaines, hein. Dites-nous, les voisines, ce que vous en pensez au 33 1 84 22 71 71, où que vous soyez. Je voudrais qu'on accueille un intervenant au téléphone, François Fatou. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre du laboratoire de l'égalité. Vous avez publié « Et si on en finissait avec les tâches ménagères ?» Alors, comment vous réagissez par rapport à ce paradoxe ? Vous vous êtes livré un calcul sur les tâches ménagères qui incombent très largement aux femmes. Hein. Les femmes ont gagné quoi ces dernières années, globalement, en 20 ans ?
Alors, les femmes ont gagné une heure, mais en déléguant à d'autres, finalement, cette question des tâches ménagères. En revanche, la participation des hommes n'a progressé que de 7 minutes. Donc, nous avons toujours un écart d'1h45 entre les hommes et les femmes. Et donc, nous n'arrivons pas à mettre en débat public cette question d'une répartition égalitaire des tâches ménagères. Et autant du côté public, dans la sphère professionnelle, nous pouvons maintenant débattre de cette question de l'égalité salariale, de l'égalité dans les conditions de travail, nous n'arrivons pas à mettre en débat public cette question de la sphère domestique.
Ouais. Alors, vous avez fait des projections assez drôles, hein, au vu des progrès minute par minute au fil des années, l'égalité domestique serait atteinte en 2460. Ceci dit, trêve de plaisanterie, un débat public là-dessus, franchement, c'est de l'ordre de la sphère privée, François Fatou.
Bah, disons que ça arrange bien beaucoup d'acteurs que ça reste une affaire privée. Et donc, dès lors que c'est un sujet d'ordre privé, la question des tâches ménagères repose sur les mères, sur les femmes. Et donc, à aucun moment, les hommes sont interpellés, les décideurs, sur le fait qu'ils doivent eux aussi assumer des tâches ménagères. D'autant que quand il y a externalisation des tâches ménagères, cette externalisation va reposer sur des femmes qui sont à temps partiel.
Alors, ce que vous appelez l'externalisation des femmes de ménage, des tâches ménagères, ce sont les femmes de ménage, hein ?
C'est tous les emplois à la personne. Que ça soit effectivement l'assistante maternelle, comme la personne de ménage. Et quand nous regardons les éléments chiffrés sur ces populations, sur cette population active, on est entre 90 à 99% de femmes. Donc, externaliser, c'est bien gentil, sauf que ça ne fait que déplacer le problème, et ce sont toujours des femmes qui sont finalement sanctionnées, pénalisées par cette non-répartition égalitaire.
Alors, il y a quand même des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent, faut quand même pas charrier, dans la France des 35 heures, c'est pas le bagne. Vous dénoncez un problème de... Alors ça touche surtout les hommes cadres, un problème de présentéisme dans les entreprises françaises, qui nuit, on va dire, à la conciliation possible des femmes, de leur travail, de leur famille.
Alors, effectivement, nous pouvons constater en France pour faire carrière, pour progresser, il faut être en visibilité et donc en faire plus qu'est-ce qu'il est attendu. Donc, rester tard le soir pour être visible vis-à-vis de ses supérieurs. Et donc, les pouvoirs publics et certaines entreprises ont signé des chartes sur l'articulation des temps, dénonçant ce préemptivisme. Et donc, par exemple, en recommandant qu'il n'y ait plus de réunion après 17 heures, mais ça n'aurait en toute petite partie le problème du préemptivisme, puisque dans bon nombre de cas, il y a une telle charge de travail que de toute façon, les patientes sont obligées de rester tard le soir. Et puis par ailleurs, il y a une impasse sur une dimension personnelle, c'est que beaucoup d'hommes se satisfont de rester tard, prennent prétexte qu'ils sont, ils doivent travailler avec leur supérieur pour éviter de rentrer tôt le soir et d'avoir à faire le suivi scolaire ou la préparation du repas. C'est vrai que c'est un plus sympa de refaire le monde, de commenter le dernier match de foot avec ses collègues, voire dans un bistrot quand on a quitté le travail, que de rentrer à la maison pour gérer les tâches ménagères et les tâches familiales. Ça n'est pas toujours une partie de plaisir. À titre personnel, j'ai 3 enfants et je peux vous dire que c'est aussi une contrainte, c'est
Vous voulez dire que c'est beaucoup moins sympa que d'être au bureau, d'accord. Donc raison totalement tabou, totalement inavouée chez une partie des hommes selon vous. Il n'y a pas de sondage et d'enquête scientifique sur le sujet avec des hommes qui avoueraient qu'ils restent au bureau justement pour ne pas donner un coup de main à la maison.
Il y a eu des enquêtes qui ont été menées, on appelle ça les stratégies d'évitement des tâches ménagères. Et il y a eu effectivement cet ouvrage publié aux éditions Belin montre ce type de stratégie d'évitement. Et les femmes, malheureusement, supportent cette situation parce qu'elles se disent, si je commence à négocier avec mon conjoint finalement une répartition égalitaire, je vais remettre en cause nos relations affectives. Et donc, en gros, c'est soit je suis cette injonction aux tâches ménagères familiales, soit je préserve mon couple. Et même dans des couples égalitaires, des couples de cadres, l'arbitrage se fait toujours au détriment des femmes.
Merci beaucoup François Fatou, je sais que vous devez prendre un avion, donc vous publiez « Et si on en finissait avec les tâches ménagères » aux éditions Belin, réaction Marianne Benet.
Oui,
vous êtes beaucoup en dialogue évidemment avec vos lectrices.
Oui, tout à fait, et c'est vrai que de par ce témoignage, on voit, ça relève à la fois de la sphère de l'intime, de l'organisation au sein du couple. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des différences culturelles par rapport à justement, voilà, le travail en entreprise. Et je parlais avec des collègues journalistes norvégiennes qui me disaient qu'à 17h, on passe derrière eux au bureau et que si on reste un peu plus tard, en fait, c'est mal vu. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas su s'organiser.
On n'est pas performant.
On n'est pas performant. Et c'est vrai que c'est une culture très différente de la nôtre, je pense, où en effet, il faut montrer qu'on s'investit, qu'on travaille tard, alors que c'est pas forcément un gage de travail bien accompli. Elle me disait que justement à Oslo, à 5h, on voit plein de pères avec des poussettes et que c'est quelque chose de tout simplement plus répandu. Et c'est là où on se dit, c'est vrai, dans votre livre, vous citez l'exemple de la PDG de Yahoo qui a bien choisi son mari et que c'est quelque chose d'en effet important, que ça change au niveau de la sphère intime. Et en même temps, il y a des choses beaucoup plus lourdes dont parfois on n'a même pas conscience, en fait, qui dans le cadre d'un travail, on doit rester tard et où les hommes, plus que les femmes, ont une pression dont ils ont aussi à se dégager, à lutter pour ça, c'est pas
absolument
facile.
Marie-Coline Messire.
Un mouvement qui s'est créé il y a quelques temps maintenant, notamment chez Orange, c'est les Happy Men qui a été lancé par Antoine de Gabrielli pour répondre aux besoins de certains hommes qui n'osent pas affirmer leur besoin d'être plus présents dans leur famille et pour éduquer les hommes à une plus large participation à la vie familiale. C'est un mouvement qui rencontre un certain succès dans nombre de grandes entreprises françaises et donc je crois que les choses sont un petit peu en train de changer de ce point de vue là.
Alors on est en train de voir que finalement le sujet de la conciliation de la vie professionnelle, donc le travail, le couple, les enfants, c'est devenu un sujet universel, mais effectivement les situations sont très différentes et les raisons des difficultés sont très différentes, qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse d'autres continents, avec les spécificités françaises qu'on vient d'évoquer. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On a envie de partager avec vous, les voisines.
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
On est en ligne avec Grace, une voisine qui nous appelle de Kinshasa, République démocratique du Congo. Bonjour Grace, vous voulez parler de votre mère, je crois ?
Oui, bonjour Emmanuel.
On vous écoute, Grace.
Oui, je voudrais parler de la situation des mères, des femmes qui travaillent et qui doivent concilier leur poste de travail, leur famille et quelquefois d'autres activités aussi. Donc, moi je suis aînée de ma famille, nous sommes 5 enfants. Et je suis un peu la deuxième maman à la maison.
Et vous avez quel âge ? Vous avez quel âge, Grace ?
J'ai 27 ans.
Oui.
Donc j'ai 27 ans, j'ai fini mes études. Donc je suis vraiment la deuxième maman à domicile maintenant qui gère tout pour que quand ma mère revient à la maison le soir, elle puisse que tout est prêt et elle peut prendre les décisions importantes. Mais les petits problèmes qui arrivent à la maison, je suis obligée de les gérer. Et c'est moi qui fais l'équilibre entre la famille, les frères, mes frères, et tout ce qui doit se faire à la maison, en fait. Mmh.
Alors, qu'est-ce que vous gérez, par exemple, que devrait gérer votre maman, mère de famille ?
Les provisions, tous les mois, l'éducation de mon dernier frère et de ma sœur, faire les devoirs, s'occuper de tout à l'école, aller aux réunions de parents d'élèves, c'est toujours moi qui y vais, faire toutes les courses qui sont nécessaires tous les jours ou bien en fin de mois ou en fin de semaine. Quelquefois les problèmes à l'université, à l'école pour mes frères, c'est toujours moi qui suis obligée d'aller pour les régler parce que mes parents n'ont pas le temps, ils travaillent. Donc je suis vraiment le pont, la deuxième maman, et quelquefois ça m'embête parce que je ne sais même pas prendre des décisions par rapport à moi.
Oui, parce que vous avez fini vos études et du coup vous ne travaillez pas, Grâce.
Exactement.
Ouais. Donc, et normalement, vous devriez exercer quel emploi, normalement ? Vous avez fait des études de quoi ?
J'ai fait des études de médecine. Donc, j'ai fini, je suis médecin. Le truc, c'est que j'ai même trouvé du travail, mais comme c'est loin de la maison, mes parents ne sont pas d'accord.
Waouh !
Ils ne veulent pas que je parte loin de la capitale.
Donc vous n'êtes pas à la maison parce que vous ne trouviez pas de travail comme de nombreux jeunes diplômés chômeurs. Ce n'est pas du tout votre cas en tant que très jeune médecin.
Non, pas du tout. En fait, j'ai fini mes études. En cherchant, j'ai pu trouver un travail. Mais je ne sais pas partir parce qu'il n'y a pas de personne. Il n'y a personne qui peut rester et gérer et faire tout ce que je fais.
Vous ne savez pas partir, comme vous dites. Vous avez un sentiment de sacrifice ?
Exactement. Je suis un peu frustrée parce que j'aimerais bien vivre ma vie aussi.
Est-ce que vous avez d'autres amis qui sont dans le même cas, des grandes sœurs comme ça, qui sont obligées de prendre le relais de se substituer à la mère de famille ?
Oui, j'en ai deux. Il y en a même une qui s'est mariée, donc elle a fondé son foyer, mais elle est toujours en train de jongler entre sa maison et la maison de ses parents parce que elle a encore deux jeunes sœurs en bas âge et c'est elle qui s'occupe d'elle.
Et que fait votre maman comme travail pour être aussi absorbée à l'extérieur ?
Ma mère est juge de siège au tribunal de grande instance.
Bravo pour ce témoignage, Grace. C'est assez édifiant, hein, parce que effectivement, les Françaises se plaignent avec raison, mais ailleurs, c'est pas simple non plus. Marie-Caroline Missire.
Oui, effectivement, c'est un témoignage très fort que vous avez livré là, qui interroge sur la place de cette génération finalement, parce que je mets ça en parallèle, mais peut-être le parallèle est un peu rapide.
C'est très culpabilisant pour les femmes en même temps, hein, le témoignage là de Grace.
Ah ben oui. Et j'avais envie de savoir ce que faisait le père dans cette répartition des tâches, puisqu'il peut-être qu'un peu plus d'implication du père pouvait équilibrer la vie de Grace, en fait.
Grace, est-ce qu'on vous a toujours au téléphone ou on vous a perdu ? Grace, il nous reste quelques secondes avant le flash.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il fait, votre papa ?
Mon père est ingénieur, il travaille à la Société nationale d'électricité.
Bon, à méditer en tout cas. Bon courage, Grace. Bravo pour votre témoignage. Vous nous appelez les voisines et les voisins. On est là. On parle pas forcément du sacrifice des mères, mais en tout cas de la difficile conciliation travail-famille-enfant. 33 1 84 22 71 71.
autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec nous de façon ludique sur l'évolution de notre humanité et sur les mutations en cours dans nos sociétés. Aujourd'hui,
quel trésor cachent les îles éparses? Quelle faune et quelle flore singulière abritent ces minuscules îlots perdus sur l'océan Indien? Piste de réponse de chercheurs de toutes disciplines.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU.
RFI.
Vous écoutez RFI, les 10h30 en temps universel, 12h30 à Paris. Le flash présenté par Marine de la Moissonnière. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. La Russie n'a plus le droit d'intervenir militairement en Ukraine. Décision de la Chambre haute du Parlement russe à la demande du président Vladimir Poutine. Il demande également à ce que le cessez-le-feu provisoire soit prolongé. Il doit prendre fin vendredi, mais a déjà été violé à de nombreuses reprises selon l'armée ukrainienne. Les séparatistes ont notamment abattu un hélicoptère ce mardi. Bilan 9 morts. Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en ce moment même à Bruxelles pour tenter de sauver la trêve. Au Pakistan, c'est un avion de ligne qui a été pris pour cible par les talibans alors qu'il atterrissait sur l'aéroport de Peshawar. Réponse à l'offensive lancée par l'armée. Depuis quelques jours, une passagère a été tuée. Une offensive similaire est menée dans le pays voisin, l'Afghanistan. Les combats sont particulièrement violents dans le sud du pays. L'armée est opposée à environ 800 talibans. Plus de 2000 familles ont déjà dû quitter leur maison en raison des affrontements. Pas de gouvernement d'union nationale en Ukraine. Nouri al-Maliki exclut cette possibilité. C'était pourtant une demande de ses alliés occidentaux. Sur le terrain, les combats se poursuivent alors que des experts américains sont attendus sur place. Affrontements à Yatrib, à 90 km de Bagdad et à la raffinerie de Baiji, que se disputent l'armée et les rebelles de l'EIL depuis plusieurs jours. L'État islamique en Iran, en Irak et au Levant, qui compte désormais un nouvel allié, le front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les deux groupes auraient fusionné. 8 blessés au Caire dans des attentats. 6 bombes artisanales l'ont explosé ce mercredi dans le métro de la ville et devant un tribunal. Pas de revendication pour l'instant. La justice a confirmé les charges qui pèsent contre l'infante Christina, la sœur du nouveau roi Philippe VI, et notamment inculpée pour blanchiment de capitaux, vaste scandale de corruption dans lequel est également impliqué son mari. L'infante Christina peut faire appel de cette décision. Le recours et le délai de trop. Voilà comment Jean Leonetti, député à l'origine de la loi sur la fin de vie en France, a qualifié le recours déposé par les parents de Vincent Lambert devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vincent Lambert, c'est ce tétraplégique de 38 ans en état végétatif depuis 6 ans. Hier, le Conseil d'État a ordonné l'arrêt des traitements, mais dans la foulée, la Cour européenne des droits de l'homme a émis un avis contraire. En football, il reste quelques places à prendre pour les huitièmes de finale du Mondial du Brésil. Le Nigeria affronte l'Argentine, qui elle est déjà qualifiée. L'Iran rencontre la Bosnie, coup d'envoi des deux matchs à 16h, temps universel. Et puis à 20h, la France joue contre l'Équateur et la Suisse contre le Honduras.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, les dictatures de la mère parfaite où les femmes au cœur de la triple vie, travail, enfant, couple ou plutôt vie personnelle. Hein. Marie-Caroline Missire, vous publiez Mère, libérez-vous. Et Marianne Bénet, vous êtes directrice de la rédaction d'un site et d'un magazine Parole de maman. Triple vie à voir, vu le nombre de femmes séparées de leurs conjoints qui élèvent seules leurs enfants. On se dit qu'au moins elles ne perdent plus de temps avec un mari exigeant. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Hein. En tout cas, on avait cet incroyable témoignage juste avant le flash de Grâce qui est l'aînée d'une fratrie et qui finalement compense la mère de famille absente et qui se sacrifie aussi pour gérer absolument l'éducation des petits frères et des petites sœurs à Kinshasa. Je voudrais maintenant qu'on parte à Taïwan. Entre-temps, vous pouvez bien sûr nous appeler parce qu'on a un petit problème de ligne téléphonique avec notre correspondant à Taïwan, Clément Robin. Je vous redonne le numéro de téléphone de notre standard pour que vous puissiez réagir en direct.
directe à cette triple vie des femmes et à cette difficile conciliation entre vie de famille, travail, enfants, vie personnelle. 33 1 84 22 71 71. À quoi ressemble la dictature de la mère parfaite chez vous? Vous pouvez aussi nous appeler si au contraire vous ne partagez pas les analyses et les constats de nos invités dans le studio. En tout cas, vous êtes nombreux chaque jour à nous appeler en fin d'émission. C'est dommage, n'attendez pas la fin de l'émission pour réagir. Alors Taïwan, on n'a toujours pas Taïwan, c'est pas grave, parce que moi je voudrais faire réagir nos invités par rapport à... Vous avez vu les déclarations de Barack Obama lundi dernier, qui assistait à une conférence de la famille à Washington, et qui disait finalement, on est il est intervenu en fait hein, au sommet pour les familles qui travaillent, en citant la France en exemple, Marie-Caroline Missire, et il dit, il existe un seul pays développé dans le monde qui n'offre pas de congé maternité, c'est nous, c'est-à-dire ce sont les États-Unis. Il dit voilà pourquoi on n'arriverait pas à trouver un système aussi favorable aux femmes que la France, et il appelle les élus du Congrès à voter la loi d'équité pour les travailleuses enceintes qui oblige les employeurs à offrir une certaine flexibilité pour les femmes enceintes qui continuent de travailler en général jusqu'à très tard dans leur grossesse. Il faut savoir que nous, on a un congé maternité très très favorable aux femmes en France, Marie-Caroline Missire.
Oui, il faut quand même souligner effectivement que Barack Obama, ça fait plaisir ce qu'il dit, effectivement, on est un pays
en citant
qui dispose
son épouse en exemple
de certaines avancées, mais c'est aussi un petit peu agaçant parce que ça participe de l'idée que nous dénonçons dans le livre, que c'est plus facile pour les Françaises. Et c'est justement ça qui les handicape. Non, c'est pas plus facile pour les Françaises. Effectivement, il y a un congé maternité. Effectivement, il y a des dispositifs qui permettent de concilier soi-disant plus facilement. Mais ce qu'on montre bien, c'est que ces dispositifs-là se révèlent des pièges, parce que les cultures d'entreprise n'ont pas évolué, parce que ce que vous disiez tout à l'heure très justement, performance égale maxi disponibilité dans la plupart des entreprises françaises, et que c'est cette culture-là qu'il faut changer. Et je pense que ça peut être aussi un projet politique et un projet de société plus globalement, de porter un discours sur la manière dont on peut aujourd'hui être parent et travailler. Je dis bien être parent, ça dépasse le seul cadre de la maternité.
En même temps, les mères françaises sont montrées dans le monde entier en exemple. Elles savent bien élever leurs enfants, ils pleurent pas la nuit, elles sont toujours féminines, elles sont très actives, etc. Non, Marielle Méné?
Oui, c'est vrai. Il y avait ce livre de cette journaliste, Madame Druckerman, qui avait, voilà, en
américaine.
Effet, une américaine qui a vécu à Paris et qui trouvait que les françaises se débrouillaient très bien. C'est sûr, voilà, comme dit Marie-Caroline Missire, ça fait plaisir, et c'est vrai que malgré tout, on arrive à concilier. En effet, comme elle le dit, c'est un mot que on ne sait pas pourquoi s'adresse particulièrement aux femmes. Et je me rends compte en tant que journaliste, par exemple aussi, quand je réalise des interviews, par exemple de personnalités, c'est vrai qu'à une femme, j'ai souvent envie de lui demander comment vous conciliez tout ça, alors qu'à un homme, ça me viendrait moins à l'esprit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort de ce livre « Mère, libérez-vous », c'est-à-dire que la conciliation, c'est un petit peu... C'est un art, et c'est quelque chose de positif d'arriver à travailler, à avoir des enfants. Et en même temps, c'est tout ce fonctionnement qui marche bien. C'est vrai en France, parce qu'on a un bon taux de natalité, ça demande une énergie incroyable voilà, à ces mères qui travaillent, qui sont actives, qui en même temps, on est dans une société où on demande à chacun de s'épanouir, de faire des choses pour soi, d'être très performant dans la famille aussi, dans l'éducation, et toutes ces tensions, c'est vrai qu'encore encore de nos jours, elles reposent principalement sur les femmes.
33 1 84 22 71 71, c'est le numéro du standard auquel vous pouvez vous adresser pour participer aux discussions en direct dans l'émission. On est en ligne avec Fatou qui nous appelle de Dakar. Bonjour Fatou.
Oui, bonjour Emmanuel.
Alors je sais pas quelle est votre situation. Enfin si, je sais que vous avez 44 ans, vous avez des jumeaux de 7 ans et oui. Que ça n'a pas été facile justement la conciliation travail, vie de famille, éducation des enfants, etc.
Non, pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai eu mes enfants, ils ont 7 ans. Et lorsqu'ils ont eu 5 ans, j'ai trouvé un travail, parce que je suis sociologue, donc j'ai fait des études, j'ai fait des enquêtes. Et là, c'était un travail assez ponctuel. Ça ne m'a jamais dérangé. Mais lorsque j'ai eu un travail qui était fixe, il fallait partir à 8 heures et sortir à 18 heures, ça c'est compliqué. Lorsqu'ils sont malades, c'est la femme, c'est la maman.
il fallait s'occuper de la maison, de la popote, etc., etc. Mmh. Et au bout d'un moment, j'arrivais plus à concilier les deux. Mmh. Donc, j'ai dû démissionner de ce travail-là. Mmh. Pour mes parents, ça a été une catastrophe. Pour mon mari, c'était tant mieux. Pour mes enfants aussi. Et du coup, socialement, c'est comme si on n'existait pas. Parce qu'on n'existe que pour sa petite famille. Et donc, pour les parents qui attendent de l'aide, etc., etc., on ne peut plus faire ça. En tout cas, on est assez limité. On n'existe pas, en fait. On n'existe pas.
Mais alors, finalement, vous ressentez... Alors, vous n'existiez plus en ne travaillant pas. Et en même temps, quand vous étiez à la maison, vous aviez aussi des... Oui, Fatou ?
Oui, je vous entends.
Oui, il y avait aussi des gens qui vous disaient « Ben non, il faut que tu retournes travailler ».
Ben oui, on me le dit. On me le dit parce que jusqu'à présent, on me le dit. Mais le problème, c'est que si je retourne travailler, je lâche ma famille. J'ai personne, en fait, pour me seconder. En fait, c'est ça qui est compliqué. On attend de moi que je travaille, parce que j'ai fait de grandes études. J'ai mon troisième cycle, j'ai mon DEA. Mmh. J'ai d'autres diplômes. J'ai été à Paris, j'ai étudié à la Sorbonne. Mmh. Tout le monde s'attend à ce que je réussisse professionnellement. Mais le problème, c'est que quand un enfant, j'ai des jumeaux, c'est compliqué, quand un enfant est malade, on est obligé de s'absenter du bureau. À force de demander des permissions, etc., etc., mmh. ça sape un tout petit peu la carrière, en fait.
Ouais.
Et il n'y a personne derrière pour prendre la relève. Et pour mes parents, je pense qu'ils le ressentent comme un échec. Parce que ma mère, elle a travaillé aussi.
Ah oui, donc elle vous dit, oui. Mais moi, si j'ai réussi à concilier les deux, pourquoi tu n'y arrives pas, sous-entendu?
Oui, elle me dit tout simplement, il n'y a qu'à prendre un personnel de maison.
Oui.
Qui va rester à la maison à ta place.
Oui.
Mais le problème, c'est que ce n'est pas le personnel de maison qui va emmener mes enfants à l'hôpital, par exemple.
Oui.
Et le problème, c'est aussi qu'elle, quand elle fait le bilan, elle me dit, je ne sais pas où j'ai échoué. Parce que tous mes enfants n'ont pas évolué comme je l'aurais voulu. Je lui dis, c'est peut-être parce que tu n'as jamais été à la maison. Elle me dit, peut-être. Mais en même temps, elle n'accepte pas que son enfant puisse rester à la maison, s'occuper de ses enfants, en fait.
Que de paradoxe. Oui, oui.
En tout cas, c'est très paradoxal, oui.
Oui, Marianne Bénet, restez en ligne avec nous, hein, Fatou.
Entre le témoignage de Fatou, de Grâce, tout à l'heure, on se rend compte à quel point beaucoup de choses reposent sur les femmes, parce que là aussi, on a envie de demander, mais et votre mari, Fatou, est-ce que
alors,
c'était envisageable?
Parce que là, on a l'impression que ce sujet, vous en discutez avec nous, vous en discutez avec votre maman, vous en discutez sûrement avec des amis, et vous parlez pas de votre mari dans l'histoire, Fatou.
Oui, parce que lui, en fait, il me dit, tu fais ce que tu veux. Je sais que tu as étudié peut-être pour avoir une carrière, mais le problème, c'est que moi, si tu ne travailles pas, je prends. Je préfère que tu ne travailles pas. Rien ne reposera sur tes épaules.
Est-ce qu'il a conscience de votre immense frustration à la fois personnelle et puis de la frustration sociale également constatée par la société, par votre entourage social, du fait de vos diplômes, etc., de ce qui est attendu de vous, Fatou?
Oui, je pense qu'il en a conscience, mais il me dit tout simplement. Si tu travailles, c'est bien. Si tu ne travailles pas, c'est bien aussi. Parce que je n'ose pas te dire de rester à la maison, parce que demain, peut-être que tu m'en voudrais. Mais si tu restes à la maison, c'est tant mieux. Mmh. Et donc, quand je ne travaille pas, lui, il y trouve son compte. Parce que pour lui, ma mère me dit, c'est ta belle-mère qui a réussi, puisque c'est son fils qui travaille et qui ramène à la maison.
Mmh. Mmh.
Mais moi, je n'ai pas réussi parce que toi, tu n'y arrives pas.
Mmh. Oui, vous êtes dans une situation assez inextricable, Marie-Caroline Messire.
Ben oui,
et puis là...
à 44 ans, je vous assure, pour trouver un boulot, maintenant, c'est compliqué.
Oui, hein. Oui. Et vous avez eu vos enfants relativement tard, si je calcule bien, en fait.
Pardon ?
Vous avez eu vos enfants relativement tard.
Justement, parce que j'ai étudié. C'est le grand paradoxe. Et je vais vous dire une chose aussi, c'est que maintenant, on est en pleine crise des mœurs à Dakar. Et les gens, les sentinelles, on va dire... des bonnes mœurs nous disent c'est parce que les femmes sont absentes des foyers. Il faudrait que les femmes retournent dans les foyers pour s'occuper des enfants. Quand le mari a les moyens.
Ouais. Alors en plus, vous êtes en pleine période d'élection locale au Sénégal. Hein, ça va être à la fin du mois. Il y a la parité en politique a été votée très très en avance sur la France. Hein, il faut bien le préciser. Ça a été voté en 2010, mais avec d'énormes débats politiques, hein, notamment de la part des conservateurs. Il y a une ville qui respecte pas la parité. C'est tout bas, hein, sur les 2600 listes. Donc globalement, ça fonctionne, mais il y a beaucoup d'opposants dans ces débats de mœurs, comme vous dites, qui disent on a une vie politique nulle depuis qu'il y a des femmes qui sont rentrées en politique. Alors, tout ça, finalement, ça perturbe encore plus le débat de société sur la conciliation travail et vie familiale pour vous.
Je vais vous dire une chose. Il y a une loi qui a été votée, je crois, en 67 sur le domaine national. On disait aux gens, si vous exploitez un lopin de terre, au bout de 2 ans, il est à vous. Mmh. On a dit, les femmes n'en profitent pas. Et il faudrait plus les sensibiliser. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que pour exploiter un lopin de terre, il faut avoir du temps. Mais comment trouver le temps entre la popote, le ménage, les enfants, la santé? Les femmes n'ont jamais le temps. Et donc, lorsqu'une femme a accès à la terre et prend un lopin de terre, aucun homme ne lui dit non, ne le prends pas. Mais ils sont tous là et ils attendent que ça se casse. Et en général, ça se casse.
Merci Fatou pour ce témoignage assez extraordinaire. Je dois dire, parce que vous avez dit beaucoup de choses et résumé beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des milliers de femmes qui se reconnaissent dans ce témoignage. Pays développé ou pas développé, rien à voir hein, finalement, là, Marie-Caroline.
Absolument, parce que ce que j'ai bien entendu dans le témoignage de Fatou, c'est à la fois une amertume par rapport au sacrifice qu'elle assume, et aussi une grande exigence vis-à-vis d'elle-même et à sa façon d'être mère. Parce que je suis pas sûre que Fatou soit prête à laisser ses enfants à un personnel de maison, elle nous l'a dit, et c'est ça qui rend les choses de plus en plus difficiles. Elle nous a parlé de ces inspecteurs des bonnes mœurs qui renvoient l'idée qu'une mère qui travaille sera une mauvaise mère. Je crois que ça pointe bien ce qui a évolué aussi. C'est-à-dire que je suis pas sûre qu'il y a 30 ans, le débat se focalisait là-dessus, sur qu'est-ce qu'une bonne mère.
Ouais.
Et ce modèle de la bonne mère est beaucoup plus prégnant. On l'entend dans ce témoignage et on l'entend partout ailleurs en France, en tout cas.
Alors, on va entrer un peu plus dans les détails dans quelques minutes sur justement ce modèle, sur cette norme imposée par les sociétés, d'ailleurs au nord et au sud, sur ces normes de la bonne mère qui ne sont pas imposées par les mêmes personnes et par les mêmes structures, que l'on soit au nord et au sud, mais néanmoins, le résultat est le même. Il faut être une bonne mère et donc ça devient parfois une dictature. Tout de suite, direction Taïwan avec notre correspondant Clément Robin. Bonjour Clément.
Bonjour Emmanuel.
Taïwan, vous êtes le correspondant pour RFI, démocratie de 23 millions d'habitants au large de la Chine. Aujourd'hui, les femmes taïwanaises sont nombreuses à avoir des responsabilités en entreprise, ça se voit, mais les mentalités ont du mal à suivre. Ça nous rappelle un peu le Japon, Clément.
Oui Emmanuel, ici il est très difficile pour une femme de concilier vie professionnelle et vie familiale. La société taïwanaise a beau être ouverte sur de nombreux sujets comme l'homosexualité, s'occuper des enfants reste un rôle dédié aux mères plutôt qu'aux pères. Comme pour leurs voisines japonaises, beaucoup de taïwanaises ont en réalité choix se marier et tenir le foyer ou travailler et rester célibataire. Résultat, de plus en plus de jeunes femmes choisissent la seconde option. Je connais par exemple deux femmes de 43 et 45 ans. Elles sont toutes les deux cadres dans des associations et célibataires donc. L'une d'entre elles explique que l'idée de la mère au foyer est non seulement ancrée dans la société taïwanaise, mais aussi chez les femmes elles-mêmes. Elles n'envisagent donc pas la possibilité de concilier travail et enfants. Et puis, ajoute l'autre, si j'avais des enfants, je n'aurais pas le temps de m'en occuper.
Et pourtant, à Taïwan, il existe des structures pour accueillir les enfants, comme les crèches.
Bien sûr, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Exemple, dans la capitale, Taipei, les crèches publiques comptent au total 500 places pour 60 000 enfants de moins de 2 ans.
Oui.
Quant aux crèches privées, elles sont trop chères pour beaucoup de couples taïwanais. Pour les enfants de plus de 2 ans, il y a les Hanshinban, des garderies du soir. Ces établissements sont très prisés à Taïwan, car beaucoup de parents finissent tard le travail. La règle de 42 heures par semaine n'est souvent pas appliquée dans les entreprises. Mais la question financière se pose à nouveau. Les deux femmes que j'ai rencontrées m'ont expliqué que les moins chères avoisinent les 4000 dollars taïwanais par mois, soit 100 euros par mois, deux fois plus pendant les vacances scolaires, comme les enfants y passent plus de temps, car les salariés taïwanais ont maximum un mois de vacances par an s'ils ont de l'ancienneté. Et puis ici, le salaire moyen reste sous la barre de 1300 euros bruts par mois, le même niveau qu'il y a 16 ans en 1998. Le salaire minimum ne dépasse pas 3,50 euros de l'heure. Ajoutez à cela les prix des loyers qui ne cessent de battre des records à Taipei, il devient compliqué d'envisager de fonder une famille, Emmanuel.
Oui, le calcul est vite fait, effectivement. Alors du coup, à Taïwan, Clément Robin, la population diminue comme au Japon ?
Bien oui, c'est un peu moins flagrant, mais on en est proche. En fait, avant la libéralisation de la société taïwanaise dans les années 80, la population augmentait de 2 millions tous les 5 ans environ. Aujourd'hui, elle ne bouge quasiment plus. Seulement 1 million d'habitants depuis 14 ans. Et cette tendance ne montre pas de signe de recul. Au contraire, en 2011, le taux de fécondité est descendu sous la barre de 1 enfant par femme, le plus bas du monde. Je rappelle qu'il faut minimum 2 enfants par femme pour assurer le renouvellement des générations. Aujourd'hui, le taux de natalité se situe autour d'un enfant par femme, encore moins qu'au Japon, connu pour le vieillissement de sa population.
Donc moins d'enfants signifie plus de personnes âgées, hein, forcément.
Oui, exactement, Emmanuel. On estime qu'en 2017, Taïwan sera une société âgée avec 14% de personnes de plus de 65 ans, deux fois plus qu'en 93. L'île pourrait devenir une société très âgée en 2025 si la tendance ne s'inverse pas. Bon, cela laisse de la marge comparé au Japon où un quart de la population a aujourd'hui plus de 65 ans. À cette allure, les 126 millions de Japonais seront moins de 100 millions dans 50 ans. Alors, pour tenter d'inverser la courbe, les deux gouvernements tentent d'alléger les charges financières des familles. Taïwan a débloqué 1 milliard d'euros en 2011 pour soutenir les naissances. Aujourd'hui, les parents d'au moins 3 enfants de moins de 6 ans reçoivent environ 100 euros par mois. Et vont tout juste de quoi payer la garderie, Emmanuel.
Merci beaucoup Clément Robin en direct de Taïwan. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour réagir en direct.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Entre les témoignages de Kinshasa, Dakar, les témoignages des femmes que vous recueillez les unes et les autres, la journaliste en France, et puis ce qui se passe à Taïwan, on ne sait pas où sont les solutions. Donc comment vous réagissez, Marie-Caroline Missire ?
Bah, je me dis en écoutant ce reportage à Taïwan... S'il y a beaucoup de personnes âgées, on pourrait peut-être imaginer que les personnes âgées s'investissent, ou les grands-parents s'investissent plus dans le soulagement des familles. Bon, ça peut être une solution, mais je crois que ça encourage à aller encore plus loin sur ce qu'on peut exiger sur la situation française, où effectivement on a des bases, et il faut le redire quand on entend tous ces témoignages, on a de bonnes bases, sont-elles saines,
des congés maternité, beaucoup de vacances, voilà. Etc.
Mais on est quand même dans une dérive, il faut être vigilant, et il faut porter ça un petit peu plus loin, pour que la charge parentale devienne le souci de l'ensemble de la société.
Marianne Béné.
Oui, c'est ça. Et ce que je me disais aussi en écoutant tous ces témoignages, c'est que c'est vrai que les femmes aussi, voilà, se mettent beaucoup de pression par rapport à l'idée qu'elles se font de leur rôle et que, voilà, et c'est aussi un plaisir. C'est ce qu'on constate, nous aussi, par exemple, tous les témoignages sur notre page Facebook de Paroles de Maman. C'est que des mères qui prennent du plaisir aussi à être à la maison, à profiter des congés parentaux. Et en fait, ce que je pense, c'est peut-être au niveau, justement, de société. Là, encore une fois, j'ai envie de comparer avec ce qui se passe en Suède, par exemple, où j'ai une amie aussi journaliste là-bas qui m'a dit moi je reste un an parce qu'il y a très peu de crèches et après mon compagnon va rester un an et du coup j'avais envie de creuser, je me disais mais ah bon, et c'est pas, y a pas de problème pour lui pour quitter
et c'est
ça.
Pas vécu comme une frustration ni par l'un ni par l'autre d'ailleurs.
Non, pas du tout, au contraire un grand plaisir elle de rester un an avec son enfant et après le fait que son compagnon, et du coup je m'interrogeais, je me disais mais ça fait, enfin est-ce que la génération d'au-dessus, c'était déjà comme ça. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est une très forte volonté politique qui fait entrer ça dans les mœurs, parce que elle me disait, par exemple, le père de son compagnon, pour lui, c'était absurde, en tant qu'homme, de rester à la maison, s'occuper des enfants. Et là, en une génération, c'est tout à fait normal. Il est resté un an, il s'est organisé pour profiter de la vie avec son bébé. Et on se rend compte que, voilà, c'est un mélange de ce qui se passe au sein de l'intimité, d'accepter nous aussi les femmes, de faire confiance, de partager, de faire, voilà, de... Et qu'en même temps, il faut aussi des volontés politiques comme voilà à Taïwan. Ou...
Avec des temps différents. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais qu'on accueille Sabine qui est à Kinshasa, au Congo. Bonjour Sabine.
Bonjour Emmanuel, bonjour toutes les mamans qui nous écoutent.
Alors Sabine, vous avez...
Oui, vous
avez 55 ans.
Yes. Oui.
Quel âge exactement, Sabine ?
55 ans.
Et vous êtes maman de 9 enfants, c'est ça? Et vous avez toujours été mère au foyer?
Voilà. Toujours été mère au foyer. C'était un choix qu'on avait fait avec mon compagnon. Parce que comme Grâce et notre auditrice de Dakar l'ont bien dit, c'est un drame que les femmes vivent parfois, où on n'a pas le choix, on ne sait pas concilier le travail et les enfants. C'est pas facile du tout. Alors moi, j'avais choisi de rester à la maison et de m'occuper des enfants.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous le regrettez ou pas du tout, Sabine?
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que comme notre auditrice de Dakar a dit, par rapport aux dépravations de mœurs, quand ça ne marche pas, on dit « Ah, c'est la faute de la maman ». Parce que la maman n'est pas là. C'est pourquoi ça ne marche pas.
Bon. Alors justement,
il y a aussi les papas.
Eh oui, eh ben justement, oui, Marie-Caroline Messier, oui. Oui, qu'est-ce que c'est que cette idée qui consisterait à penser que l'enfant, pour être épanoui et pour devenir une bonne personne, doit être dans un tête-à-tête permanent et quasi exclusif avec sa mère? Je crois qu'il faut dépasser cette vision-là et cette idée d'une performance maternelle qui serait absolue. Et que disent certaines femmes qui choisissent effectivement par plaisir, par choix, par goût, de consacrer un moment de leur vie à être au plus près de leurs enfants, et c'est éminemment respectable et positif, si tant est que ça ne véhicule pas l'idée que c'est uniquement cette voie-là que doivent choisir des femmes pour s'accomplir dans leur maternité. Remettons un peu de liberté dans cette façon d'être mère.
Sabine, merci pour votre témoignage. D'autres appels nous arrivent, il nous reste très très peu de temps avant la fin de l'émission. Sidi B est en région parisienne. Bonjour Sidi B.
Oui, bonjour Emmanuel.
Un papa. Je le sens.
Vous écoutez. Oui, je suis un papa de 2 enfants, marié, et puis j'arrive à concilier le travail avec la famille, quoi. Et ma femme aussi, parce que je lui donne un coup de main, et puis c'est juste une question de synchronisation. Et puis voilà, on est là pour la maman et les enfants aussi.
Mais alors ça veut dire quoi quand un papa dit j'arrive à tout concilier? Est-ce que le mot est utilisé, enfin a le même sens exactement qu'une femme, pour une femme?
Parce que moi, pour moi, la femme et l'homme, c'est la complémentarité. C'est pas genre l'homme qui gère ou la femme, etc. Non, c'est tous les deux. Du moment où on a des enfants, c'est un choix commun. Certes, elle travaille, moi aussi. Donc, je me suis dit qu'elle a la même liberté que moi, quoi. Donc, je vais pas la laisser.
Donc, vous en faites autant que votre épouse. Merci beaucoup pour ce témoignage. On accueille Rose à Dakar, qui nous appelle une extrémiste, qui veut absolument s'exprimer dans l'émission. Rose, c'est à vous.
Oui, bonjour. En fait, je tenais absolument à participer à l'émission parce que je me sens très concernée par le sujet. Je suis très prise par mon travail. En fait, je m'occupe de l'activité commerciale sur la zone Afrique subsaharienne pour un laboratoire pharmaceutique français. Et mon mari ne vit pas à Dakar. Il travaille aussi pour un grand groupe français, mais dans un autre pays, au Burkina Faso. Donc, du coup, je ne vois pas mon mari. Et ma fille vit à Dakar, je ne la vois pas non plus parce que j'ai les contraintes professionnelles qui font que je dois être dans toute la zone Afrique subsaharienne. Je dois aussi participer au séminaire du groupe pharmaceutique donc un peu partout dans le monde. Je suis pratiquement pas à la maison, je ne vois pas ma fille, elle est très mal, elle vit très mal la situation. Je suis une grande frustrée parce que je ne vois ni mon époux, ni ma fille. Et malheureusement, c'est vrai que je suis très épanouie dans mon travail, mais en ce moment, je me rends compte que c'est pas ça le plus important pour moi. En fait.
Donc vous êtes dans un dilemme terrible aujourd'hui, Rose.
Ouais. Je suis dans un dilemme terrible. En ce moment, je me pose même la question à savoir si je ne vais pas arrêter le travail que je suis en train de faire.
Alors que vous menez une carrière formidable. C'est ça aussi, les problèmes de la mondialisation, quand on est tout le temps dans les avions. Merci beaucoup, Rose. Je voudrais qu'on redise quand même en quelques secondes, Marie-Caroline Messier, finalement, vous qui publiez Mère, libérez-vous, sur cette fameuse dictature de la mère parfaite. Vous demandez quoi pour que cette dictature se relâche et que les femmes soient moins dans ce dilemme?
Le mot-clé, c'est liberté. C'est-à-dire que
quand on est, quand on devient mère pour la première fois, surtout, il faut bien avoir en tête que à nous seuls appartient la façon dont on va se construire en tant que mère et oui. en tant que bonne
enfin,
mère.
Enfin, c'est un choix quand même difficile. Cornélia, on vient de l'entendre là.
Exactement. Alors, effectivement, je pense que les entreprises ont beaucoup à faire pour embaucher des femmes, les promouvoir, mais aussi intégrer qu'elles ont des charges de famille. Mmh. Et puis ensuite, mmh. il faut arrêter avec certaines contraintes ou idées préconçues
Merci
qui pèsent
beaucoup,
sur les femmes.
Marie-Caroline Issière, Mère, libérez-vous. C'est publié chez Plon. Marianne Benet, vous êtes directrice de la rédaction de Paroles de Maman, qu'on peut aussi retrouver sur Internet. Merci à vous, les voisines. Merci. Et les voisins pour vos témoignages et merci à toute l'équipe. Demain, rediffusion de l'émission Quand la crise donne des idées et vendredi, ne manquez pas l'émission à Bruxelles. Grosse conférence internationale sur l'éducation.